Un petit point sur les recherches en ex-Champagne-Ardenne depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est normalement une communication de multiples mains et de multiples voix. Donc, avec la collaboration des personnels de l'INRAP, du service archéologique de la communauté urbaine du Grand Reims, de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, notamment le laboratoire GGNA et le projet de recherche Impact 14-18 et de la société d'archéologie EVEA. Voilà, un petit contexte juste pour rappeler où se trouve la Champagne-Ardenne. Alors, on a essayé assez récemment, grâce aux travaux d'Alain Devos et Pierre Taborelli de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, je dirais, préciser le contexte d'intervention, notamment par la numérisation des plans directeurs français pour la Grande Guerre, ce qui donne sur le front de Champagne, donc les zones finalement les plus touchées par les combats et où les archéologues vont avoir le plus de vestiges, qui donne à peu près cette image avec 3 à 4 rideaux défensifs de chaque côté, donc côté allemand en bleu et côté français en rouge, avec un linéaire de tranchées et de boyaux estimés à près de 92 km par kilomètre linéaire du côté de Reims. On monte jusqu'à 116 km par kilomètre linéaire de front sur la Champagne-Chèche, dans la mesure où sont des terrains assez ouverts où il faut renforcer les protections, et puis une petite baisse vers l'Argonne. Alors cet outil permet aussi, par exemple, de savoir quels étaient les réseaux de voies ferrées, souvent à voie étroite, aussi installés. On pourra faire, j'espère, dans un avenir assez proche, le même exercice sur les zones de cantonnement, donc pour se pencher peut-être sur une manière plus poussée sur la vie quotidienne des soldats dans la Grande Guerre. Alors, on va essentiellement naviguer dans deux secteurs, les alentours de Reims. Alors, vous voyez, à chaque fois, on a des zones qui sont un peu en arrière, qui seront finalement les secteurs où la vie quotidienne des soldats sera la plus étudiable, dans la mesure où elle est assez peu bouleversée par les combats. Et on va se rapprocher, bien évidemment, des zones de front sur des problématiques de vie quotidienne, notamment dans les tranchées, qui, il y a quelques années, nous a assez, je dirais, assez insipide et pas à même de nous livrer beaucoup d'informations, mais la vision, hein, c'est comme pour toute, je dirais, activité de recherche scientifique, les objectifs évoluent. Et puis on ira plus vers l'est de la région, alors notamment dans le massif d'Argonne, qui présente des conditions de conservation, étant un massif forestier depuis toute éternité, qui sont souvent bien meilleures que sur la Champagne sèche. On va aller au nord de Reims, donc sur les zones arrières qui peuvent donner, c'est là où on s'aperçoit aussi, comme l'a montré notamment l'exposé sur les occupations américaines, qu'on peut avoir, je dirais, des champs d'études archéologiques bien en arrière du front. Ici, on est au Châtelet-sur-Retourne, c'est une fouille de l'INRAP de Johann Rabasté, où on a eu la chance d'attraper, malheureusement, à l'époque, je dirais que l'optique archéologique de Grande Guerre était moins développée, c'est une fouille déjà ancienne. On a réussi à attraper les éléments, je dirais, interprétatifs d'un camp d'aviation allemand, donc avec ses grands hangars, du moins les fondations de ces grands hangars, et souvent les soutes à munitions qui accompagnent. On en voit une qui a été intégralement vidée sur la droite de la photo. Donc on a une approche de structures qui sont finalement assez mal connues et qui peuvent être porteurs d'enseignements sur certains aspects donc de cette guerre aérienne. Bien évidemment, on a retrouvé des éléments d'avion ou par exemple des queues de cochon destinées à accrocher les dirigeables. Donc là, on est dans, je dirais, la vie quotidienne de l'arrière-front. Un peu plus proche du front, on a eu il y a 3-4 ans une occupation assez importante à Isles-sur-Suippes, donc au niveau de à peu près à 7-8 km du front, avec des choses un peu étonnantes donc qui renseignent cette vie quotidienne. Alors, côté allemand, on a là une fosse dépotoir, on voit bien le dépotoir, et en fait, la dernière partie, le dernier niveau de remplissage était occupé par un cheval qui a dû être tué par une explosion d'obus. Plus étonnamment, en dessous a été retrouvé un crâne d'ours, mais taxidermisé. Si vous regardez bien, il y a deux clous au niveau de la voûte crânienne qui permettent de passer un axe en bois. Et donc, on avait certainement des soldats allemands qui, dans les villages à proximité, avaient récupéré une très belle peau d'ours et agrémenté leur cantonnement sur Isles-sur-Suippes. Voilà, on va s'approcher du front. Là, on est vraiment à la sortie ouest de la ville de Reims. Et justement, là, on s'aperçoit que finalement, la vie quotidienne dans les énormes réseaux de tranchées qui vont se développer pendant plus de 4 ans dans le secteur, cette étude porte assez peu d'éléments de connaissance à la période, ou du moins des éléments qui sont déjà très, très, très bien renseignés. Par contre, on a tout le développement des premiers réseaux de tranchées, qui eux sont d'ailleurs non cartographiés, et qui permettent d'approcher cette vie quotidienne du tout début de la guerre, qui est finalement la moins connue. On va avoir 3 petites opérations, une qui n'est pas encore réalisée, une découverte qui a été faite il y a quelques semaines par Bruno Duchesne de l'INRAP, qui est dans la salle, et donc on va se rapprocher. Ici, une opération à gauche faite par Nicolas Garmon de Grand Reims, et à droite, une autre opération faite par Johan Rabasté de l'INRAP. Donc vous voyez, je vous ai mis à la fois l'évolution des canevas de tir entre le 27 octobre 14 et les secteurs, le même secteur en juillet 18, donc avec 2 réseaux de tranchées énormes. Vous voyez qu'en octobre 14, la position est tout à fait différente, et on a donc cette possibilité d'étudier des structures assez mal connues, donc notamment tout ce petit réseau de tranchées. Alors là, on n'est même pas, je me rapproche de la conférence de Gwenaël Mercier sur cette évolution des réseaux de tranchées. Là, on n'est même pas sur de la tranchée à Redan, on est sur de la tranchée très légèrement zigzagante, avec quelques abris disposés côté ennemi. Voilà. De l'autre côté, on a les restes des tout premiers trous d'hommes, à la fois installés par les Français, réutilisés par les Allemands en septembre 1914, et on vient de trouver il y a quelques semaines, donc ici sur en fait l'avant des réseaux allemands, les premiers trous d'hommes qui correspondent aux premières implantations allemandes après avoir évacué le 13 septembre 1914 la ville de Reims. Donc on a ici finalement une étude assez intéressante de cette évolution des réseaux. Alors on voit que les Français auront tendance à avancer un peu leur défense, alors que les Allemands, les zones de défense vont être repliées de quelques centaines de mètres vers le nord. Voilà, on peut se rapprocher, là encore, des études faites par Alain Devos et Pierre Taborelli, donc sur plutôt une approche patrimoniale des vestiges encore en place, alors notamment dans quelques petits massifs forestiers qui accueillent des forts serrés de rivières et un peu postérieurs, qui sont la ceinture fortifiée de la ville de Reims. Donc là, plutôt une approche patrimoniale, mais qui peut être par exemple renseignée par le LIDAR, avec en haut à gauche, vous avez notamment l'évaluation de l'ensemble des impacts qui ont frappé le fort de Brimont, comptant l'ensemble des cambois, le fort de Brimont étant situé pendant toute la guerre côté allemand. Alors certainement des recherches sur ce patrimoine, donc ça c'est la relation avec les carrières saintes, je vais dire, qui pourraient se développer, alors notamment sur Reims, sur des axes qui pour l'instant n'ont pas encore fait l'objet de beaucoup d'études, et donc notamment le réduit Pommery, des caves Pommery, des caves de champagne. Hein, Reims est connu pour ses caves de champagne, mais par contre ces caves de champagne ont bien évidemment été utilisées à la fois par les habitants de Reims en tant qu'abri, mais aussi ici vous avez le PC Bourges et le réduit Pommery ont aussi été utilisés par les militaires, le front se trouvant à quelques centaines de mètres en direction du nord-est, avec quelques graffitis, je vous laisse deviner le motif ici légèrement caché par les bouteilles de champagne qui sont encore en mûrissement dans les caves Pommery actuelles, qui sont devenues les caves Rankin. On va se déplacer un peu vers la Champagne anciennement dite pouilleuse, où là finalement les opérations archéologiques sont moins importantes, dans la mesure où on est dans des terrains soit agricoles, soit militaires. Alors on a l'avantage, c'est que les militaires finalement assurent une veille attentive et une protection de secteurs touchés par les combats assez importante, puisque là par exemple on est sur le camp de Suippes, qui est encore un camp de tir actuellement, donc ce qui décourage un peu les visiteurs indélicats, sachant que dans ce cas-là, on a un potentiel archéologique, je dirais, très important, alors aussi bien sur les conditions de combat en première ligne que sur les arrière-fronts, puisque le camp de Suippes, qui fait à peu près la taille de la ville de Paris, voilà, a accueilli une zone de front et ses zones arrière, ce qui permet, je dirais, de protéger un potentiel à terme pour les archéologues des générations futures. De manière assez importante, sachant que dans ce secteur-là, par exemple, on pourra avoir des éléments d'étude sur la vie quotidienne des soldats, puisqu'on sait notamment par toute la... Alors ça, si ça vient d'avancer, mais trop vite, notamment la présence, comme je le disais, mais qui est... pas encore inventorié, d'énormément de structures de support. Ici, vous avez l'hôpital ordinaire d'évacuation de Bussy-le-Château, donc qui est à quelques kilomètres du camp de Suippes, donc ce qui laisse apparaître à terme des possibilités d'études assez importantes sur ces formations, notamment sanitaires. On va maintenant se rendre dans une zone qui est, je dirais, tout aussi imperméable à l'archéologie préventive que le camp de Suippes, dans la mesure où on est en forêt d'Argonne. Alors la forêt d'Argonne est un massif, c'est quasiment une forêt primaire, hein, puisque dans l'Argonne n'a jamais poussé et ne poussera jamais que des bois, et qui présente l'avantage d'avoir accueilli à peu près en son centre, hein, le massif à peu près 40 km de longueur pour 15 à 20 km de largeur, d'avoir accueilli à la fois la première ligne française et la première ligne allemande, et surtout tous les éléments de cantonnement arrière qui sont finalement là où on va trouver le plus d'informations un peu novatrice sur la vie quotidienne des soldats, aussi bien côté allemand que côté français. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, seul le côté allemand a fait l'objet vraiment de recherches. Et on va se déplacer, on va partir finalement de cette forêt où on a des conditions de conservation souvent idéales. Alors c'est vrai que ce sont des conditions qu'on peut retrouver dans de nombreuses régions, dans de nombreux autres secteurs de l'Est de la France, moins dans les Hauts-de-France, où finalement les paysages en 100 ans ont assez peu évolué. Mais cependant, cette étude a fait l'objet d'une recherche donc par Jérôme Breynaud de la société EVA, de l'occasion d'une fouille programmée sur les processus de recomblement post-combat des systèmes de tranchées de première ligne. Donc dans le secteur du village de Vienne-le Château, on est vraiment là un petit kilomètre au-dessus du village. Donc là encore, le LIDARS est un outil particulièrement précieux, notamment pour nous donner un indicatif des états de conservation des lignes de front, puisqu'on s'aperçoit que dans certains secteurs, l'information a totalement disparu. Disparu, elle n'est plus visible, puisqu'en fait, les coupes à blanc et les nivellements de terrain font que tous les systèmes de réseaux de tranchées ne sont plus visibles. Par contre, sur des forêts qui ont plus un caractère communal ou domanial, on a une meilleure conservation et on regarde de manière extrêmement précise les évolutions de la zone de front dans des conditions de conservation assez idéales, entre guillemets. Donc là, Jérôme Breynaud a souhaité, pendant deux campagnes de recherche, essayer de voir dans quelle manière et quelles étaient finalement les structures de la Grande Guerre en zone de front les mieux conservées. Alors il est vrai que souvent, les tranchées les plus profondes et les plus abouties, qui sont celles de la seconde partie de la guerre, à partir de la mi-1915 ou septembre 1915, il ne se passe plus grand-chose en Argonne avant l'automne 1918, mais on a là, un terrain d'étude qui me permet de mieux s'apercevoir finalement des conditions de dégradation et de disparition raisonnable au fur et à mesure du temps des remplissages de tranchées. Autre approche qu'on peut avoir aussi en zone un peu plus au nord, donc dans un secteur qui n'est pas touché par la guerre des tranchées. Là, on s'approche plus de la battlefield archéologique et développée par les anglo-saxons. C'est d'ailleurs un Américain qui a fait les recherches. On est sur le site d'engagement du Lost Bataillon. Alors, l'épisode du Lost Bataillon est quelque chose d'emblématique pour les Américains, puisqu'entre le 2 et le 7 octobre 1918, un bataillon complet de l'armée américaine emmené par le major Charles Whittlesey va pénétrer dans la forêt d'Argonne et va être piégé dans un bas-fond de la forêt par des unités allemandes. Et au bout d'une semaine, quand enfin les Alliés réussissent à savoir où est le bataillon et que les Allemands ont dû évacuer le secteur, puisque de part et d'autre de ce piège, les troupes américaines ont continué à avancer. Il fait finalement sur un effectif de 800 hommes à peu près, il y aura un tiers de tués, un tiers de blessés et un tiers de gars qui ressortiront des bois tant bien que mal. Donc c'est vraiment un épisode important pour eux. On a la chance d'être dans une zone totalement en bois, et des bois qui en fait n'étaient pas entamés en 1918 par les combats, et donc on retrouve au sol par prospection au détecteur à métaux finalement tous les secteurs d'engagement. Alors pour les gens, généralement vous êtes tous promenés dans un bois, par contre vous n'êtes peut-être pas promenés dans un bois avec un Allemand qui risque de vous tirer derrière un arbre. Et les combats en zone de bois sont très très particuliers, avec une perception visuelle qui ne va pas au-delà de 20 ou 30 mètres, et il est vrai que les récits des Américains paraissaient un peu imprécis, alors certainement aussi embellis, hein, ça c'est toujours le problème du récit, mais là on a pu précisément déterminer où se trouvaient les zones d'affrontement principales, donc les munitions tirées ou non tirées, c'est les petits points bleus côté américain, rouges côté allemand, mais ce qui est plus intéressant sont les petits points jaunes qui sont les éléments d'équipement, à caractère pharmaceutique, donc en fait les boîtes de pansement des blessés américains, donc on voit bien les endroits où on s'est vraiment affronté et où il y a eu des pertes, ce qui permet, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais de mieux comprendre les conditions de progression donc des unités américaines à travers le système défensif allemand et les zones de combat et d'affrontement principal. Voilà, on va repartir toujours grâce au LIDAR sur un secteur donc là qui est vraiment à l'arrière du front et donc dans une zone où on va pouvoir étudier une vie quotidienne, je dirais apaisée, qui est plutôt celle du soldat. Un soldat en première ligne, finalement, il y est assez peu souvent, il est plutôt souvent un peu à l'arrière du front et en repos. Donc on va se diriger vers un très grand camp allemand qui fait à peu près 1,8 km de long sur 800 à 1 km de large, et là-dessus on a pu mener pendant plusieurs années des fouilles programmées. Alors ça, c'est la vision du plan allemand et du plan français qu'on pouvait avoir, donc une vision relativement précise de l'organisation de ce camp-là, mais 5 années de fouilles successives ont quand même permis de préciser les conditions de vie particulières des combattants en forêt d'Argonne. Donc voilà, c'est un grand camp de cabanes, suffisamment à l'arrière du front pour ne pas subir des bombardements. Vous avez à peu près la même vue avec les 3 niveaux de cabanes successifs en forêt d'Argonne. Alors on a la chance pour cette époque d'avoir une documentation assez importante. Ici, la création. Donc, le camp va s'appeler finalement le Boriswald, mais au départ s'appelle le Nouvel Apremont, Apremont étant le petit village ardennais en contrebas du camp. Donc vous voyez des conditions de vie assez particulières. La réalité est plus prosaïque maintenant sur le terrain, mais permet quand même d'aborder ces conditions de vie, alors avec notamment des cabanes plus ou moins organisées. Ici, on est sur des cuisines avec de nombreux fours. Alors aussi des pratiques assez étonnantes. Vous ne le savez pas, mais Apremont avait une fonderie dans laquelle a été fait l'essentiel des boulons et des rivets de la Tour Eiffel. Et donc les soldats allemands, au début, assez peu approvisionnés, provisionnés par leur intendance, ont créé, en fait, avec les boisseaux de fonderie et des plaques de fonderie découvertes à Apremont, ces petits poêles fours tout à fait utiles dans le climat un peu tempéré de la forêt d'Argonne en hiver. On va bien évidemment trouver les organisations collectives qui permettent la vie en camp. Ici, on a le bâtiment de douche en cours de dégagement, et ici, le bâtiment de douche totalement fouillé, avec certainement la photo, mais vue de l'arrière, donc le côté gauche de la fouille. On a par exemple aussi dégagé un bâtiment, alors qu'il présente ce caractère d'avoir deux excroissances sur son arrière. On a pu retrouver ce bâtiment-là, on retrouve bien le plan au sol qu'on a pu voir lors de la fouille, avec une petite particularité, énormément de porcelaine dite hôtelière trouvée sur le sol. Et en fait, on est sur l'emplacement du mess des officiers qui a brûlé lors de la prise du camp début octobre par les troupes américaines, avec tout un vaisselier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut aller assez loin. Alors notamment, par exemple, ici, vous avez une capsule en porcelaine à bascule qui permet d'identifier en fait le dernier bataillon qui a stationné sur le camp. Quelques photos d'époque, alors des mobiliers qu'on ne retrouve pas souvent dans ces contextes, notamment des cartes postales sur écorce de bois de bouleau ici pour souhaiter une bonne fête à son destinataire. Des choses plus étonnantes, on identifiera sans problème du film de projection en bas à droite. Par contre, en haut à gauche, les bâtonnets sont plus difficilement identifiables, mais comme on sait qu'on est à côté d'un cinéma, en fait, ce sont les bâtonnets de graphite qui permettent de créer l'arc électrique du projecteur cinématographique. Des pratiques aussi, je dirais, sanitaires, avec l'existence d'une grande cabane. Si on faisait un zoom ici, vous auriez marqué, enfin, il y a marqué Zanstation Boriswald Lager, et donc on a retrouvé la fosse du dépotoir du dentiste, qui a permis, je dirais, une étude des pratiques de dentisterie sur le camp à cette époque-là. Alors, qui dit grande, finalement, une espèce de ville, hein, il y a à peu près 3000 soldats dans le camp, c'est une grande ville. En Argonne, si vous croisez deux personnes pendant l'été, vous avez de la chance. Ici, vous avez quand même 3000 personnes qui stationnent en permanence. Et bien évidemment, vous avez un cimetière. Cimetière qui existe toujours et qui est finalement maintenant la seule trace dans le paysage de cette existence d'une ville. Et donc les fouilles, en fait, ont permis de montrer, enfin de remettre en perspective cette organisation extrêmement aboutie. Donc je rappelle, à peu près 1 800 km de long, 800 à 1 km de large, donc avec des zones de cantonnement avec les grands camps ici. On a en partie centrale, donc la zone de vie finalement de cette petite ville. En partie centrale, on a les bains collectifs. Qui dit régiment, même d'infanterie à l'époque, dit énormément de chevaux, à peu près 250 chevaux, mais les chevaux n'aiment pas les pentes, donc on les a mis un peu plus bas. Ici, vous avez les écuries. Vous avez bien évidemment les zones logistiques de stockage de matériel, avec la voie ferrée étroite de 60 cm. On a là le tramway de la ville, puisque les textes nous disent que toutes les deux heures, en provenance d'Apremont, on monte un tramway, et décalé d'une heure et aussi toutes les deux heures, on descend du camp vers le village d'Apremont, ce qui est très apprécié des soldats allemands qui, quand ils repartent vers leur Wurtemberg natal, prennent leur sac à dos dans la cabane, prennent le petit train, vont chercher le grand train à Apremont et rentrent tranquillement chez eux. Alors, on a aussi les zones, par exemple, le cinéma se trouve ici, et puis on a l'hôpital qui se trouve là, et bien évidemment, une minute, d'accord, ça sera fait. Le cimetière. Mais j'ai droit à 3 minutes de... Voilà, donc c'est finalement, on restitue des conditions de vie très particulières qui étaient globalement connues, mais là, on va beaucoup plus dans le détail. Voilà. Alors, je dirais que cet exercice donc sur la Marne et un peu les Ardennes, en fait, il est bien évidemment transposable à de nombreux départements français, et il est transposé à de nombreux départements français. Je dirais que le potentiel d'étude au-delà des zones vraiment en limite de la zone de front principale, il est quand même assez énorme, bien qu'on puisse aussi trouver du côté de Martigues ou de Bordeaux des structures et une archéologie de la Grande Guerre qui pourra se développer. On a là je dirais, déjà une première zone d'étude avec une concentration de vestiges assez importante qui correspond à la zone des armées. Donc la zone des armées étant sous contrôle de l'état-major général des armées et la zone de l'intérieur étant sous contrôle du ministère de l'Intérieur. Mais vous voyez, les départements concernés sont quand même assez importants. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec des départements limitrophes comme la Haute-Marne et puis un peu le Dijonais et la Bourgogne, puisqu'on se retrouve... Donc je ressors le plan des hôpitaux de mars. Par exemple, il faut se souvenir d'un temps où dans le département de la Haute-Marne, vous aviez plus de soldats américains que de Haut-Marnais, puisqu'il y a à peu près en 1918, à la fin de 1918, vous avez 20 divisions américaines qui stationnent sur le département de la Haute-Marne. Donc 20 divisions américaines, c'est quasiment 600 000 hommes. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Et donc, justement, ce patrimoine qui va commencer à falloir, donc qui va commencer à être pris en considération, du moins on peut l'espérer au regard de la tenue des débats aujourd'hui, alors aussi bien pour la Seconde Guerre mondiale que pour la Première Guerre mondiale, on commence à l'inventorier de manière assez précise. Alors après, les protections, il faudra se pencher sur la nature des protections qu'on pourra apporter à ce patrimoine qui est très important. Ici, par exemple, vous avez le seul camp bâti côté français du front d'Argonne, et on s'aperçoit que finalement, la vision qu'on peut en avoir encore actuellement avec ces quelques murs faits en gaise, la gaise étant la pierre typique de l'Argonne, en fait, sur les plans LIDAR, ne correspondent qu'à cette petite partie-là, et qu'en fait, l'organisation générale du camp, elle est beaucoup plus grande. Alors, je parlais des problèmes de protection. Alors, des fois, on a de bonnes surprises. Ici, vous avez le monument allemand dans le cimetière de Sedan, qui n'est plus un cimetière allemand, qui est vraiment le cimetière civil de la ville de Sedan, qui a été l'objet de beaucoup de polémiques et qui vient de faire l'objet d'une restauration récente pour la fin du centenaire, et c'est plutôt un affichage intéressant. Et puis, je dirais que c'est peut-être aussi une archéologie qui peut, alors non pas s'exporter, mais du moins donner ses premières expériences vers des pays plus exotiques. Donc là, c'est juste un clin d'œil. Vous êtes au Paraguay pour la guerre de la Triple Alliance, 1864-1870. Alors, vous dites, le Paraguay, c'est très loin. Il devait se battre à 20 ou 30 contre 60, contre les Brésiliens et les Argentins essentiellement. Et puis finalement, le potentiel de l'archéologie d'un conflit contemporain au Paraguay est assez important, puisque là, je vous présente le plan d'interprétation du Campamento Cerro León, qui était en fait la zone de concentration des armées du Paraguay, les armées du maréchal López en 1866. Et donc là, les premières fouilles devraient intervenir à partir de début du mois de juin de cette année. Donc voilà une extension, je dirais, de l'archéologie des conflits contemporains vers des cieux plus exotiques. J'en ai fini.
Merci d'avoir résumé 15 années de recherche en si peu de temps.